Europe 1.
Ovide, jeune aristocrate romain, a renoncé à une carrière juridique et politique pour faire de la poésie érotique. Il chante les plaisirs d'une Rome aux mœurs libres, alors même que l'empereur Auguste s'impose au pouvoir avec la volonté de redresser des habitudes de vie qu'il juge dissolues. Leur vision incompatible du monde vaudra de graves problèmes à Ovide. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Ovide, les tourments du poète romain de l'amour, épisode 2, mort sociale d'un dragueur invétéré. Nous sommes à Rome au tout début de notre ère. Les amateurs de séduction se sont procurés le nouveau livre du poète Ovide. Il s'intitule « L'art d'aimer », « Ars amatoria » en latin, comme on parle d'ars oratoria, l'art de bien parler. Le livre se divise en trois parties, deux chapitres pour les hommes et un pour les femmes, parce que selon l'auteur, elles sont plus douées en amour que les hommes. Le premier livre, c'est comme ça qu'on appelle les chapitres, apprend aux hommes où draguer les femmes. C'est assez facile, on peut le faire partout, mais en fonction des lieux, on ne va pas s'y prendre de la même manière. Ce manuel de séduction est truffé de références mythologiques qui en font une superbe œuvre littéraire. Mais les conseils de drague n'en sont pas moins concrets. Je dois attirer votre attention sur un point crucial avant que nous allions plus loin. Vous ne pouvez plus appliquer tous les conseils d'Ovide au pied de la lettre, messieurs, sauf si vous voulez vous retrouver avec un hashtag balance ton porc. Cependant, certains de ces conseils vieux de 2000 ans marchent encore très bien. Soyez donc vigilants, messieurs. Tenez, par exemple, Ovide conseille au dragueur de profiter de la promiscuité du cirque pour s'asseoir tout près de la femme qu'on cherche à séduire, pour la coller même. Et il faut se conduire en gentleman protecteur. Je vous en cite un passage. Si comme il arrive, il vient à tomber de la poussière sur la poitrine de ta belle, que tes doigts l'enlèvent. Et s'il n'y a pas de poussière, enlève tout de même celle qui n'y est pas. Tout doit servir de prétexte à tes soins officieux. Le manteau trop long traîne-t-il à terre ? Prends-en le bord et avec empressement soulève-le du sol malpropre. Aussitôt, récompense de ton zèle officieux, sans que ta belle puisse s'en fâcher, tes yeux verront des jambes qui en valent la peine. Donc ça, messieurs, vous ne le faites plus aujourd'hui, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Mais attention, chers auditeurs, je compte sur vous pour ne pas vous offusquer non plus en écoutant les conseils d'Ovide. N'oubliez pas que les gens d'autrefois ne pensent pas comme nous. La séduction d'Ovide est un jeu érotique et vous verrez que les femmes n'en sont pas les dupes. Mais finissons d'abord avec les garçons. Ovide explique aussi aux hommes que pour plaire aux femmes, il faut avoir de l'assurance car, je le cite, « toutes les femmes peuvent être prises ». Ce n'est évidemment pas moi qui le dis, hein, c'est Ovide. Là où Ovide devient subversif, c'est quand il donne des conseils pour se mettre la servante de la dame dans la poche ou échapper à la vigilance de son gardien. Ça veut dire que les femmes dont il parle ne sont pas des prostituées, mais des femmes libres et mariées qu'il pousse à l'adultère. Évidemment, l'adultère pour les femmes est interdit à Rome. Auguste a fait passer des lois qui autorisent le père, et non le mari, d'une femme en flagrant délit d'adultère à la tuer avec son amant sans procès. Une telle sanction dans les mains du père est faite pour être dissuasive et le mari trompé se limitera à répudier sa femme et à coller une bonne correction à l'amant, ça aussi, c'est légal. Par contre, si un mari notoirement trompé ne répudie pas sa femme, il peut être accusé de proxénétisme. Et là, c'est le couple qui perdrait son statut de citoyen. C'est donc très grave aux yeux de la société romaine. Mais revenons à l'art d'aimer, si vous voulez bien. Ovide recommande d'écrire de nombreuses lettres à la femme désirée et de promettre tout et n'importe quoi parce que l'important, c'est la finalité, la faire tomber amoureuse. Ovide donne aussi des conseils sur leur physique aux hommes. Pour lui, un homme doit être propre, bien habillé, coiffé, rasé, un peu musclé et bronzé par le sport au grand air, mais pas trop. La sophistication, les bijoux, les épilations, ce sont des affaires de femmes. Un homme romain doit rester un homme. Et puis, arrive enfin le moment du premier baiser. Selon Ovide, on peut le forcer un peu parce que les femmes d'alors ont le devoir de se refuser pour se donner une certaine valeur. Mais le poète recommande surtout de ne pas employer la force. La séduction reste un jeu subtil. En revanche, il recommande l'effet de surprise pour voler un baiser en y ajoutant des mots d'amour, des larmes, des confidences. Et oui, un homme romain peut être démonstratif. Quelques larmes au moment opportun ne le priveront pas de sa virilité. Mais Ovide met son lecteur en garde. On ne traite pas une jeune fille sans expérience et une femme aguerrie de la même manière. La clé, c'est l'adaptation. Le second livre, toujours adressé aux hommes, donne des astuces pour faire durer l'amour. C'est la partie la plus difficile, parce que le véritable jeu, c'est de parvenir à séduire. Il recommande donc aux hommes d'être complaisants, aimables, de faire des cadeaux, d'admirer leur belle, d'être dévoués. Et ça, messieurs, rien ne vous interdit de le faire aujourd'hui. Au départ, tous les compliments seront peut-être un peu forcés, et puis l'amour s'installera avec le temps. Il faut surtout ne pas être jaloux et ignorer les infidélités. Ovid donne aussi des conseils aux hommes pour satisfaire leur aimé dans la chambre. Il est le seul poète de toute l'Antiquité à écrire, je cite, « Quand tu auras trouvé où la femme aime être caressée, que la pudeur ne t'empêche pas de le faire. » Il est le seul auteur à célébrer le plaisir féminin et à s'opposer au devoir conjugal. L'art d'aimer doit se partager à deux et non s'imposer. Et ça, c'est très moderne. Après ces derniers conseils, il passe au livre 3 consacré aux femmes. Dans le monde romain, la femme ne peut pas être à l'initiative de la séduction. Elle doit faire en sorte de devenir un gibier pour un chasseur et il ne faut pas qu'elle soit trop facile à attraper, sinon il n'y a plus de plaisir. La première chose à faire est donc de se faire belle, chacune en fonction de sa morphologie et de ses atouts. Ovid avait 2000 ans d'avance sur le mouvement body positive. Il rappelle aux femmes que c'est l'élégance qui charme les hommes. Comme pour les hommes, il insiste sur les soins du corps, je le cite. « Qu'un bouc farouche ne loge pas sous tes aisselles et que tes jambes ne soient pas hérissées de poils rudes. » Il ajoute que ces leçons sont pour les citadines, pas pour les paysannes des contrées barbares. À cela s'ajoute le maquillage et tous les moyens sont bons pour cacher les petits défauts physiques. Bref, les conseils se multiplient et je ne peux malheureusement pas tout vous raconter. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ovid prêche pour une éducation des femmes car pour séduire les hommes, il faut avoir un minimum de conversation. Il met aussi en garde les femmes contre les catégories d'hommes à éviter. À mon sens, ces conseils sont toujours valides aujourd'hui. Il faut éviter les hommes trop beaux qui draguent toutes les filles et surtout, il ne faut jamais croire les belles promesses, jamais. À la fin de son livre, Ovid écrit « Comme autrefois les hommes, que maintenant les femmes, mes élèves, écrivent sur leurs trophées, Ovid était mon maître. » Cet ouvrage politiquement incorrect, incompatible avec la politique de redressement des mœurs d'Auguste, est un succès littéraire. Ovid est connu et contracte désormais un troisième mariage avec Fabia, une femme venant d'une famille de consuls et parente éloignée de l'empereur Auguste. À environ 40 ans, le poète se met donc à fréquenter l'élite romaine. Il décide d'en finir avec la poésie érotique et s'attelle à des sujets plus sérieux. Il se met à traduire des auteurs grecs et se lance dans la rédaction des Métamorphoses, un immense poème où il raconte l'histoire universelle de l'humanité depuis la création à travers les mythes qu'il connaît si bien. Ces mythes condamnent souvent les mauvais agissements des hommes et des femmes qui sont punis par les dieux par une transformation. Par exemple, Diane change le chasseur Actéon en cerf après l'avoir surprise accidentellement au bain. Mira est transformée en arbre à mire pour avoir commis un inceste avec son père en s'introduisant dans son lit dans le noir. Tous les tabous sont donc condamnés comme l'anthropophagie, l'infanticide ou la zoophilie. Mais parfois, la métamorphose est une récompense. Le sculpteur Pygmalion a créé Galatée dans l'ivoire car il refusait de se marier avec les femmes toutes infidèles de son île et Vénus donne vie à Galatée pour le récompenser de vouloir une femme vertueuse. Au-delà des contes mythologiques, Ovid semble faire allusion à plusieurs reprises à des valeurs néo-pythagoriciennes, une secte organisée autour des valeurs professées par l'antique mathématicien et philosophe grec Pythagore. Cette secte s'intéressait tout particulièrement à l'âme au-delà de la mort et prescrivait des règles de vie comme des interdictions alimentaires. Il était par exemple interdit de consommer des fèves. Il y a aussi une forme de végétarisme dans le pythagorisme, mais il est mal compris aujourd'hui. On ne sait pas trop si la viande était interdite ou si on ne mangeait que certaines parties de la viande préparées lors de sacrifices religieux. Ce qu'il y a de certain, c'est que le néo-pythagorisme pratiqué à l'époque d'Ovide était une religion à mystère. Il fallait donc être initié. Et dans le cadre de l'initiation, l'astrologie était pratiquée parce que l'astrologie était une science au carrefour de l'astronomie et des mathématiques. Sauf qu'elle prédisait l'avenir et que sous Auguste, le recours à la divination était interdit pour éviter de s'en servir comme levier de contre-pouvoir politique. Ovid, poète célèbre et respecté, grand connaisseur des religions et de la mythologie, est donc un personnage important de Rome dans la première décennie de notre ère. mais tout bascule au début de l'hiver 8 après Jésus-Christ. Un jour, il reçoit un message de l'empereur Auguste qui le convoque séance tenante. Sans procès et sans jugement, Ovide est condamné à la relégation, un exil où il conserve ses droits civiques et ses biens, mais ça reste une mort sociale. Sa dernière nuit à Rome est un déchirement. Son épouse n'arrête pas de pleurer. Le lendemain matin, Ovide s'embarque avec quelques affaires et unit à la hâte vers Tomis, une ville située en actuelle Roumanie au bord de la mer Noire. À l'époque romaine, on appelle cette région le Pont Euxin. Arrivé dans les marges de l'Empire romain, si loin de la ville bouillonnante qu'il chérit, Ovide se met à écrire deux ouvrages qui font part de sa détresse. Leurs noms sont évocateurs, les Tristes et les Pontiques. Il y a aussi un texte moins connu, Libis, où il explique qu'il doit sa relégation à un délateur sans que son nom soit cité. Mais que s'est-il passé? En passant ces textes au peigne fin, on apprend qu'Ovide a commis une faute, une sottise, mais pas un crime. Il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir et qui a offensé l'empereur. Aucun de ces textes ne donne explicitement la cause de son châtiment pour ne pas irriter davantage l'empereur, et puis à Rome, tout le monde est au courant. Mais les siècles ont passé et réduit les commères au silence. Nous ne savons pas ce qu'il a vu de si dérangeant. Officiellement, on lui reproche l'art d'aimer qui pousserait les Romains à la débauche. Mais le livre a été écrit 8 à 10 ans avant son exil, ça ne tient pas. Ce n'est que le paravent du vrai motif de la relégation. Et c'est là que les historiens se transforment en enquêteurs. Je vous donne d'abord les hypothèses qui ont été réfutées. Ovide n'a pas été relégué pour avoir été l'amant d'une femme de la famille impériale. Si ça avait été le cas, il aurait été condamné à mort ou exilé, mais pas relégué. À cette époque-là, l'empereur Auguste, qui est vieillissant, a bien des problèmes avec ses petits-enfants qui ont envie de le renverser. Il a donc envoyé en exil sa petite-fille Julie, autrice d'un complot contre Tibère, le beau-fils de l'empereur, considéré comme son héritier. Et il a aussi exilé son petit-fils Agrippa Postumus, un idiot adepte de sport que l'impératrice Livie ne supportait pas et qu'elle devait écarter pour assurer la succession à son propre fils, ce fameux Tibère. Est-ce qu'Ovide aurait vu quelque chose? Est-ce qu'il aurait assisté à une scène qui aurait un rapport avec un complot? C'est possible, mais rien ne le prouve. D'autres historiens pensent qu'Ovide aurait commis une faute religieuse. Selon les uns, il se serait introduit dans une fête de la bonne déesse strictement réservée aux femmes pour le plaisir intellectuel d'en découvrir les rites interdits aux hommes. Il écrivait en effet les fastes, qui listaient toutes les fêtes religieuses et qui auraient pu justifier des curiosités déplacées. Pour d'autres historiens, il aurait participé à une séance de divination ou d'astrologie en rapport avec la secte néo-pythagoricienne. Il aurait donc découvert malgré lui l'avenir de l'Empire romain. La mort d'Ovide sur le pont Euxin en 17 ou 18 après Jésus-Christ jettera pour toujours un voile sur le mystère de la relégation du poète. Même si elle devait être temporaire, Auguste ne l'a finalement jamais rappelé. Son successeur Tibère, arrivé au pouvoir après la mort d'Auguste en 14 après Jésus-Christ, ne l'a pas fait non plus. Ovide est donc mort sans avoir revu Rome. Mais Rome ne l'a pas oublié. En 2017, il est symboliquement réhabilité. Ses élégies restent les favorites des amateurs d'antiquité et des amoureux de l'amour. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio et contrairement à l'art d'aimer qui se joue seulement à deux, c'est un travail d'équipe. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.